Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'épisode numéro 10 de la troisième saison du balado Sortie de zone en collaboration avec La Presse. Les gars de La Presse sont avec nous, Philippe Quentin qui est là, salut Philippe.
Salut Jérémy.
Alexandre Pratt qui est là, salut Alexandre.
Bonjour messieurs.
Et directement de nos studios, du studio A de Sherbrooke, Stéphane Wade qui est avec nous pour le 98.5 FM. Salut Stéphane.
Salut les gars.
Bon messieurs, hey, quel bonheur de jaser du Canadien, hein, parce qu'on s'en parlait juste avant de débuter l'enregistrement du balado. Quel bonheur de jaser du Canadien quand ça va bien de même, quand il y a 10 défaites avec 3 petites victoires. C'est pas drôle. Honnêtement, ce n'est pas drôle. Je n'aimerais pas vivre l'expérience à l'interne. Et là, dans un premier temps, on va juste revenir sur cette défaite de 5-2 face aux Golden Knights de Vegas, où le Canadien avait pris les devants 2-0, dominé au chapitre des lancers 20-1, et tout à coup, la chaîne débarque et le Canadien qui s'incline 5-2 face aux Golden Knights. Tour de table là-dessus, Philippe, dans un premier temps.
Moi, je suis pas du tout dans le camp de ceux qui trouvent du positif dans toutes ces défaites-là. Je viens même un petit peu tanné d'entendre ça après les matchs, défaite sur défaite. Mais on a eu plus de lancers, on a eu des occasions de marquer, on n'a pas été chanceux, la rondelle qui a bondi par-dessus le bâton du défenseur. Si ça, c'est arrivé, si ça, ça, ça. Je suis comme, tout à coup, c'est assez, là. L'équipe est en train de s'enfoncer. T'as employé une expression, Jérémy, en ouverture, s'il fallait résumer la saison du Canadien, ce serait exactement ça. La chaîne débarque, la chaîne a débarqué. Et c'est pas... Je comprends que le coach et les joueurs peuvent pas aller s'auto-flageller sur la place publique après chaque match et dire c'est épouvantable, ça va mal. Mais tu sais, d'un autre côté, je trouve qu'il y a comme une facilité tout à coup à accepter la défaite en disant « Ah ben, il faut croire au processus, puis on va continuer, puis non, ça va bien aller un jour. » Non, ça ira pas bien un jour si on change pas fondamentalement certaines choses.
On en parlait dans le podcast vendredi dernier. On disait, je voulais pas dire est-ce qu'on s'habitue à la défaite, parce que ça, tu sais, on a le terme loser là-dedans et c'est pas ça, mais est-ce qu'on s'habitue à l'insuccès? Je l'ai amené de cette façon-là, puis veut pas.
C'est une excellente question.
On essaie quand même tellement de trouver du positif que veut pas, t'es obligé d'essayer d'oublier que tu ne connais pas de succès. Stéphane, ton point de vue sur cette défaite de 5-2 face à Vegas?
Bon, écoute, je suis d'accord avec Philippe, là, si on peut. On trouve des raisons pour chaque défaite. Et puis, sauf qu'à l'intérieur, je me mets au niveau des joueurs ou des entraîneurs, tu n'as pas le choix de dire qu'est-ce qu'eux autres disent en ce moment, d'essayer de trouver des points positifs, parce qu'à un moment donné, eux autres, ils ne peuvent pas s'enliser dans le négatif, même si ça l'est. Écoute, la game, la dernière partie, c'est... Encore une fois, pour moi, c'est le penalty killing qui a fait défaut. Encore, c'est là qu'on a perdu le match. Deux buts en deuxième période sur ce fameux désavantage numérique. Et puis, c'est certain qu'on dit tout le temps, faut que ton gardien de but soit ça doit être le meilleur joueur sur ton désavantage numérique. Et puis, on me l'a répété, moi, comme coach des gardiens de but, les entraîneurs-chefs m'ont souvent dit, c'est notre gardien de but, c'est pas notre meilleur joueur sur le penalty killing. On est dans le trouble. Mm. Et puis, c'est un petit peu ça qui arrive en ce moment.
Ce qui est dommage, par contre, là, parce que j'ai été chercher les statistiques, puis Alexandre, je vais entendre ton point de vue juste après. Je vais aller chercher les statistiques, en général, des joueurs qui ont évolué en désavantage numérique. Donc, on peut pas nécessairement juste les mettre pour le désavantage numérique, mais ceux qui ont du temps en désavantage numérique, les joueurs des Golden Knights de Vegas ont 16 tirs bloqués. Et ceux qui ont joué pour le Canadien en désavantage numérique, c'est 5 tirs bloqués. Tu sais, fait qu'en quelque part, si tu bloques pas des tirs en désavantage, ton gardien de but a d'affaire être vraiment miraculeux, parce que sinon, ça va être extrêmement difficile. Alexandre, ton point de vue sur cette défaite?
Ben, c'est un match qui pouvait pas échapper. Je veux dire, les Golden Knights avaient vraiment une formation faible comparé à ce qu'ils ont d'habitude. Il y a 5 joueurs dans l'alignement dont j'avais jamais entendu nom, puis je suis ça, puis j'en ai des poules de hockey, puis je veux dire, j'ai collectionné des cartes de hockey, puis je veux dire, j'avais jamais entendu ces noms-là dans l'alignement. C'est pas normal de s'incliner face à une équipe aussi faible. Mais, tu sais, est-ce qu'il va falloir s'habituer à la défaite? Je vais séparer ça en deux. Pour les partisans, oui. Parce que, vraiment, je le dis depuis le début de l'année, il y a un problème systémique dans cette équipe-là. Cette équipe-là va rester longtemps dans la cave. Là, il n'y a pas de solution à court terme, il n'y a personne dans le pipeline. Je veux dire, il y a Cole Caulfield, puis c'est à peu près tout dans le pipeline. Les autres gars jouent à l'université. Sean Farrell, 19 ans ou 18 ans, il était peut-être à 4 ans de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, il n'y a pas de solution évidente qui s'en vienne. Puis pour les joueurs, c'est vrai qu'ils n'ont pas le choix d'essayer de se convaincre. Mais tu sais, j'ai parlé de ça à Bruno Gervais il y a 2 ans. Les Canadiens avaient perdu 2 fois, 8 matchs de suite. Mm-hmm. Puis là, je voulais savoir, écoute, c'est quoi être dans une équipe qui perd tout le temps? Puis lui, il avait été avec les Islanders là, dans les années où il perdait plus que tout le temps. Il gagnait jamais, en fait. Puis, tu sais, il avait dit, à un moment donné, ça devient correct de perdre dans une équipe. C'est plus grave. Il dit, pourvu que les jeunes jouent, qu'ils se développent et s'améliorent. Mais quand t'es un vétéran, c'est vraiment frustrant, cette attitude-là. Puis il dit, tu sais, tous les gars ont une raison de jouer. T'es fier, tu veux un nouveau contrat. Sauf qu'il dit, quand les matchs veulent plus rien dire. Puis là, on commence à rentrer dans ce territoire-là là, pour le Canadien. C'est-à-dire, je pense que tout le monde est très conscient qu'il n'y aura pas de série. Là. Il dit, là, il y a des gars moins engagés. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est de se rendre la saison prochaine en santé. Puis là, ces gars-là se présentent pas au match. Et on commence à rentrer dans ce territoire-là là, pour le Canadien.
Il reste quand même 69 matchs à disputer. Mais... c'est quand même incroyable. 69 matchs à disputer, puis on est en train de se parler de désengagement. Moi, la question que je me pose, c'est que j'ai vu des images dans le dernier match, j'ai vu de la frustration. J'ai vu Jeff Petrie engueuler les gars sur le banc. Et savez-vous quoi? Si j'avais été à la place de Jeff Petrie, puis Stéphane, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, là. Mais si j'avais été à la place de Jeff Petrie, j'aurais eu la même réaction. Le gars veut faire un changement et les gars se contrefoutent de la passe que Petrie vient de faire pour s'en aller directement au banc et regarde pas. Petrie fait, hey les gars, allumez là. Si on joue pas, si on fait pas les jeux de routine comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mike Hoffman dans le filet désert qui brise son bâton, ça arrive, c'est pas grave. Ça fait partie de la game, on le voit.
Quelle image, par exemple, après briser son bâton puis s'en va planter dans la bande. C'est la saison du Canadien en image.
T'as Smith à côté qui passe à côté puis qui fait par exprès pour se tasser parce qu'il sait que c'est insultant ce qui est en train de se passer pour l'équipe, pour Mike Hoffman. Écoute, c'est à un moment donné, il y a quelque chose qui va sauter, là. Philippe, qu'est-ce que t'en penses?
Le Canadien pourra pas continuer longtemps comme ça, à mon avis. Il va falloir aussi que le président de l'équipe, tout à coup, parle. Je trouve que c'est absolument inacceptable que Jeff Molson soit
Moi, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que ça va changer quelque chose?
Oui, ça va changer quelque chose.
Qu'est-ce que ça va changer?
Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que dans toute organisation, là, t'as le leadership. Le leadership, ça part d'en haut, c'est le président, ou le propriétaire, ou les deux dans ce cas-ci. C'est à cette personne-là de donner un ton. C'est pas si un président d'équipe, là, disons quand c'est un président qui est employé, s'il gagne un gros salaire, c'est pas parce qu'il va travailler 30 heures par jour quand il y a seulement 24 heures dans une journée, c'est parce qu'il faut qu'il soit là quand la soupe est chaude. Il faut qu'il soit là, qu'il montre qu'il assume du leadership. Il faut qu'il montre qu'il y a une direction. Il faut qu'il montre que c'est pas acceptable ce qui se passe. Jeff Molson est sur Twitter continuellement quand l'équipe va bien. Ah, des partisans formidables. Ah, les meilleurs partisans au monde. Là, quand ça va mal, il est où? C'est quoi le message que ça envoie même aux joueurs de l'équipe? Il est où le président? Il fait quoi? Il dit quoi? Il est content? Il est pas content? Il arrive quoi avec Bergevin? Tout le monde parle de ça. Même le pauvre Bergevin est obligé d'aller en conférence de presse puis dire aux journalistes, ah, s'il vous plaît, parlez plus de mon contrat. S'il vous plaît, parlons-en plus. On en parlera à la fin de l'année. Voyons donc. Ça n'a aucun bon sens que ça fonctionne comme ça. Alors oui, ça changerait quelque chose, Jérémy, parce que ça donnerait une ligne. Il faut que le propriétaire et le président nous dit ce qu'il pense à l'heure actuelle. Est-ce qu'on s'en va vers une autre réinitialisation? Est-ce qu'on va vers une reconstruction? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il trouve que c'est normal? Sinon, pourquoi? Il faut qu'il parle. Il l'a fait dans le passé, dans des années où ça allait mal. Pourquoi il ne le fait pas cette année?
Mmh. Stéphane, pour la base des partisans, est-ce que Jeff Molson doit sortir?
C'est une bonne question. Probablement que oui. Il doit... D'après moi, s'il sort pas, c'est parce que je sais pas c'est quelle raison. Mais je sais que moi, quand j'étais avec le Canadien, on a eu des périodes creuses. Et puis, on a souvent eu le groupe d'entraîneurs, des textos de Jeff, des gars, vous me voyez pas, mais je suis là, je suis en arrière de vous autres, je vous appuie, là, je sais pas. Et puis, ça pour nous autres, c'est important. C'était pas le fun parce qu'on allait pas bien, là, mais de voir notre propriétaire qui pensait à nous autres puis qui nous appuyait, j'imagine que Jeff fait encore ça, mais au niveau public, c'est certain que les fans adoreraient avoir des nouvelles de Jeff.
Ben non, écoute, là, en plus, parce que si le propriétaire ne parle pas, ça fait juste semer encore plus de doutes sur la situation de Marc Bergevin, sur la situation de Dominique Ducharme. Fait que donc, ça, au lieu de au lieu d'éteindre le feu, ça jette de l'huile sur le feu, Alexandre.
Ben, en fait, c'est très simple. S'il parle pas, le vide va se combler de lui-même. Qui comble le vide présentement? Je veux dire, c'est les journalistes, c'est les commentateurs, c'est les partisans.
C'est le white noise, comme ça qu'ils appellent ça. Stéphane, le white noise de bruit extérieur, là.
Non, mais absolument, c'est le bruit, mais je veux dire, c'est naturel. Tu sais, ça me fait penser, il y a quelques années, Marc Bergevin était sorti au camp d'entraînement, puis il avait dit, on a la meilleure défense, genre, de l'histoire de Nice Blague.
Meilleure défense que l'an passé,
que l'an dernier, évidemment, c'était pas vrai, on l'a rapidement vu, puis après ça, il s'est pas exprimé avant le mois de décembre. Pendant 4 mois, la seule chose dont les gens ont parlé, c'est cette citation-là de Bergevin. T'sais, là, Bergevin sort plus souvent, et je le sais, j'en suis conscient, il a appris de ça. T'sais, tu laisses pas un vide de 4 mois en 2 interventions. Hey, Jeff Moulton, c'est quand la dernière fois qu'il a parlé? Sérieusement, c'est de faire.
Je me rappelle
pas. Je pense que la dernière fois, c'est comme à la presse, c'est, il avait donné une entrevue.
Ben, c'est Logan Mayou, l'affaire de Logan Mayou, ouais, quand il a donné une conférence de presse sélective, là, il faut bien l'avouer. Mais tu sais, sur un autre sujet que celui-là, sur l'ensemble de l'œuvre du Canadien. Puis tu sais, moi, je me rappelle, c'est quelle année qui avait été particulièrement difficile où le Canadien a commencé comme 1-9, c'est 2017-2018.
Ouais.
Alors, je vais vous raconter juste une anecdote. 2017-2018, ça va mal, fin du mois d'octobre. C'est exactement le moment où le Canadien ouvre son nouveau restaurant au Centre Bell.
La taverne 1909, je crois.
Exactement. Et donc, il y a une petite cérémonie pour ça. Et Jeff Molson est là. C'était à la fin du mois d'octobre. Puis je me souviens, par la suite, moi, j'étais columniste à temps plein à la presse. Puis Marc Defoy pour le Journal de Montréal était là. Puis Jeff Molson était là. Puis après la conférence de presse, Marc et moi, on s'est assis avec Jeff. Puis là, Jeff nous a donné son point de vue sur l'équipe. Puis il a essayé de se dire non, c'est loin d'être fini et tout, et tout, et tout. J'ai fait un gros papier dans la presse. Marc a fait un gros papier dans le Journal de Montréal. Ça a calmé un peu la situation parce que les fans ont eu des réponses à leurs questions. Je ne dis pas que ça a calmé pour le reste de l'année, mais pendant un certain temps, le président a fait acte de présence. Le président a manifesté, à ce moment-là, il était optimiste, il a manifesté son optimisme, et ça a réussi à calmer, puis tout ça, mais surtout à avoir son idée sur ce qu'il allait faire ou ce qu'il allait pas faire. Donc, c'est ça, être présent, c'est ça, communiquer. Tu peux pas seulement communiquer quand ça va bien, tu peux pas seulement communiquer quand ton équipe est en finale de la Coupe Stanley, puis communiquer quand ça va mal, il l'a déjà fait. Souvenez-vous, quand il avait dit, là, au mois de mars, une ouverture de il y avait une royauté quelconque européenne qui était en visite à Montréal.
Prince belge, je pense,
le prince belge, puis là, il était là dans le comité d'accueil, il avait été interrogé sur l'équipe, puis il avait dit, tu sais, c'est inacceptable ce qui se passe, ça avait fait la manchette partout. Il s'est exprimé. Donc, il l'a déjà fait dans le passé, qu'il le fasse encore.
Non, mais en fait, tu sais, la communication, là, c'est plus important quand une équipe perd que quand elle gagne, parce que c'est à ce moment-là que tu as besoin de contrôler le message. Quand l'équipe gagne, le message se fait par tout seul. Ça va super bien. Quand tu perds, c'est là que tu dois présenter. Puis je vais faire un comparatif. Bon, Philippe et moi, on a été tous les deux là, boss à la salle de rédaction. Tu sais, un et deux à la salle de rédaction. Tu sais, quand ça va mal, là, croyez-moi, là, les compagnies qui sont sur le spotlight ou les partis politiques qui sont sous le spotlight, leurs spin doctors, leurs influenceurs, ils appellent les boss, ils appellent les journalistes, ils appellent les chroniqueurs pour essayer de changer le message. Il n'y a absolument rien de ça présentement qui se passe chez le Canadien. Là. Comme j'ai dit, le vide fait en sorte qu'il y a de la critique. Là.
C'est fou quand même. Et Stéphane, là, je veux t'entendre là-dessus. C'est fou quand même de l'interne comment eux peuvent vivre quelque chose comparativement à tout ce qui se passe à l'extérieur. Fait qu'à l'extérieur, c'est un hécatombe, c'est un raz-de-marée, c'est un tsunami. Puis à l'interne, on essaie de se concentrer sur faire de bonnes passes puis bloquer des lancers. C'est fou quand même, hein? C'est deux situations complètement différentes.
Ah, exactement. C'est beaucoup plus gros à l'extérieur qu'à l'interne, comme tu dis.
Mais ça devrait pas être plus gros aussi à l'interne, une fois de temps en temps?
Je sais, mais on parle de leadership. C'est quand que ça va pas bien que tu as besoin de tes leaders. Je veux dire, c'est quand que ça va bien, on n'a pas besoin de leaders. Fait que c'est un petit peu que ce qu'on vient de parler avec la direction. C'est quand que ça va mal qu'il faut que les leaders se lèvent debout. Et puis, là-dessus, j'ai aimé quelques réactions. Bon, pour revenir à ta première question, Petrie, j'ai adoré ça. Et puis, il y a du monde qui vont dire, regarde, tu vois, il est frustré, puis il ne devrait pas faire ça. Et puis, mais s'il fait rien, mais là, il y a du monde qui vont dire, mais ils ont pas l'air à s'en faire parce qu'ils font rien. Il n'y a pas personne qui a l'air frustré. Donc, c'est sûr qu'ils sont frustrés. Mm. Mais de l'intérieur, honnêtement, je suis convaincu qu'ils sont sous contrôle, même si ça va pas bien.
Mais ils contrôlent quoi? C'est 3-10.
Ils sont sous contrôle dans le sens qu'ils contrôlent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et puis, tu vas me dire que ça marche pas, là, puis avec raison. Mais là-dessus, c'est tout ce qu'on dit, qu'on va contrôler ce qu'on peut contrôler. Le reste, on peut pas. Ils peuvent pas contrôler ce que le président fait ou pas. Ils peuvent pas contrôler si le GM va faire, le directeur général va faire un échange ou pas. Tout ce qu'ils peuvent contrôler, c'est leurs efforts puis leur focus sur les bonnes choses à faire. Et puis, je sais que ça se respecte. Ils doivent répéter ça à tous les jours. Et puis, il y a des choses qu'on sait pour peut-être que Marc qui est là, qui est à l'entour, Marc Bergevin qui lui parle. Peut-être, comme je l'ai dit tantôt, Jeff qui envoie des textes aux joueurs peut-être pas aux joueurs, ce serait très surprenant, mais je veux dire au staff, aux entraîneurs, pour leur dire, regarde les gars, je sais que c'est difficile, je suis avec vous autres. Donc, il y a des choses de même.
Ça demeure une business de résultats quand même. Tu sais, à travers l'émotion qu'il peut y avoir, là, ça demeure une business de résultats. Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, moi, je pense que le niveau de panique est plus élevé que ça à l'interne, avec tout respect, Stéphane. Tu sais, tu l'as vécu de l'interne, mais il y a des gestes qui sont posés, qui justement nous font croire que ça commence à les déranger tous les éléments qu'ils ne contrôlent pas. Je parle des joueurs, le coach et le directeur général. Tu sais, Marc Bergevin est quand même sorti déjà deux fois depuis le début de l'année, dont sa conférence de presse improvisée, dans laquelle je pense que le message qu'il voulait passer était un peu Jeff Molson là-dedans, à propos de la négociation du contrat. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu la conférence de presse. Mais ça commence à les déranger. Puis tu sais, on a vu deux fois Jonathan Drouin montrer des gestes de frustration. Une fois dans l'entraînement par rapport à Dominique Duchamp, une fois à la fin d'un match aussi où il a fait à peu près le même geste que Mike Kaufman est allé casser son bâton. Mm-hmm. Tu vois qu'il y a beaucoup de gestes de frustration.
Je vais être obligé de te dire que ça fait partie de la game.
Moi, je suis d'accord.
Puis là, je vous le dis, là, ce qui peut arriver dans pas long, c'est que d'une prochaine pratique, s'il y a une autre défaite, ça se peut qu'il y ait un combat.
Ouais,
ça se peut qu'il y ait une bataille.
Non, mais on va dire,
mon Dieu, que c'est une bonne chose. Hey, les gars ne veulent pas perdre. T'sais, moi, je trouve que là, on devient coco en quelque part. Concentrez-vous durant le match.
Oui, exactement. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais ça prend de l'émotion présentement. Un des problèmes qu'on a, c'est qui le leader de cette équipe-là? C'est qui le leader au niveau des joueurs? Quel joueur va être capable de rassembler? On a vu Jeff Petrie qui fait un discours, mais tu regardes les résultats de Jeff Petrie sur la patinoire depuis le début de l'année. Est-ce que c'est quelqu'un qui, honnêtement, prêche par l'exemple, puis tu peux dire, OK, Jeff, lui, c'est le gars qui a comme 10 points en 13 games.
Son temps de jeu, va dans ce sens-là, par contre. Là, il est extrêmement utilisé.
Ben, c'est aussi le gars qui, la semaine dernière, avait causé le plus de revirements dans toute la Ligue nationale.
Je sais que Jeff, il est très frustré en ce moment, puis ça doit être par rapport à lui et par rapport à l'équipe, les deux. Il y a un mélange des deux. Et puis, ça, c'est clair et net. On parle de leader. Là, j'en vois un depuis trois games, là, Suzuki, là, qui a pris les choses en main. Mais ça, c'est bon signe, ça. Pour ça, là, t'as Gallagher. Pour moi, j'ai Petrie, Gallagher puis Suzuki en ce moment qui sont dans le line-up, qui ont une forme de leadership. Le reste, là, c'est zéro.
Après la défaite... c'est zéro. Ça, c'est fou quand même, Stéphane, que tu nous dises ça, que le reste, c'est zéro, parce que t'es pas supposé d'être un passager d'un club d'hockey. T'es supposé d'amener ce que t'es capable. C'est pas tout le monde qui est Maurice Richard, là. Mais t'es supposé d'amener quelque chose.
T'as beaucoup de suiveurs là-dedans, là. Qui vont suivre les leaders. Et les leaders en ce moment sont. Pour moi, là, sont seulement trois en ce moment.
Ce qui est quand même fou parce que le Canadien a quand même beaucoup de vétérans là, dans l'équipe. Ils ont beaucoup de joueurs entre 26 ans qui ont beaucoup d'expérience et qui ont voyagé là, quand même dans l'équipe. Là.
Oui, je peux pas qualifier des Hoffman ou des Toffoli ou des même Armia. Peut-être Chariot que je suis pas avec là-dessus, mais des Kulak, des Weidman, c'est pas de leader là-dedans. Là.
C'est des suiveurs.
Ouais, c'est des gars qui vont suivre les leaders.
OK. Après le match de samedi, défaite de 5-2 face aux Golden Knights, dans l'après-match, Martin McGuire et Danny Dubé discutent ensemble. OK. Et Danny dit à Martin, écoutez, je pense qu'à travers tout ce qui se passe présentement, il y a plein de voix qui se manifestent à l'intérieur du vestiaire. Parce que comme tu l'as mentionné, Alexandre, il y a des gars qui ont de l'expérience dans la Ligue nationale. Ça peut parler à gauche, à droite. Ça peut faire des gestes comme Petrie. Ça peut faire d'autres gestes comme Hoffman. Mais il est le temps de catalyser cette énergie-là pour avoir une personne qui devient le porte-parole. Lui qui va faire le pont avec l'entraîneur, avec l'équipe d'entraîneurs et de direction. C'est le temps de nommer un capitaine par intérim. C'est le fun chez Weber. C'est lui le capitaine. Mais si on est capable de nommer des coachs par intérim, on est capable de nommer des capitaines par intérim. Lui, il avançait le nom de Brendan Gallagher. Selon vous, Philippe, je commence avec toi. Est-ce que ça change quoi que ce soit qu'on nomme un capitaine par intérim? Et est-ce que, si oui, ça change quelque chose, est-ce que Brendan Gallagher serait un bon choix?
Bon, moi, je pense que pour cette saison, il est déjà trop tard pour ça. Même pour Gallagher, tout à coup, il va dire pourquoi ils ne vont pas nommer au camp d'entraînement. Là, c'était clair que Weber revenait pas. Donc, pourquoi là? Est-ce que c'est... Puis là, ça va tellement mal... Alexandre l'a dit tantôt avec beaucoup d'à-propos, ça va être défaite sur défaite. Là. Donc quoi, ça veut dire qu'on vient dire à Gallagher, là, tu vas être l'agneau sacrificiel, là, c'est toi qui vas aller, après toutes les défaites, aller expliquer aux journalistes, puis ça va-tu devenir comme Max Pacioretty? Vous vous souvenez quand Pacioretty est capitaine, puis il était plus capable à la fin. Alors moi, j'irais dans une autre direction complètement. J'attendrai que l'année passe. Je pense que l'année va être très difficile. Je pense pas que Marc Bergevin va revenir si l'année continue comme ça. J'attendrai un an. Mois de septembre l'an prochain, je nommerai Nick Suzuki capitaine de l'équipe s'il continue à bien jouer comme il le fait là, depuis une semaine ou deux. Ça était plus laborieux au début. Ça va devenir ton gros joueur de centre, ta vedette. Alors, regarde ce que Ottawa vient de faire avec Brady Tkachuk. Moi, je pense que c'est la direction qu'il faut prendre.
Mais c'est des jeunes à Ottawa. Tandis que, et Stéphane, je vais avoir ton point de vue. Si t'arrives, t'as des gars comme Gallagher qui sont là, tu mets Suzuki comme capitaine, comment Gallagher va réagir selon toi?
Je pense pas qu'il y a de trouble avec Gally. Puis je vois plus Nick Suzuki éventuellement comme capitaine. Puis je pense Gallagher, il va y faire un très, très bon adjoint. Mais je suis d'accord. Moi, je nomme pas de capitaine pour en nommer un. Et puis, j'ai trop souvent... On a vu l'expérience à Montréal quand on a nommé Max comme capitaine. Et puis, ça n'a pas été... On a nommé un parce qu'il fallait en trouver un dans l'équipe. À Chicago, un moment donné, on n'avait pas de capitaine. On a été 2 ans seulement avec des assistants parce qu'on savait qu'éventuellement, c'était Jonathan Toews. Mais il était trop jeune. On voulait lui donner un petit peu d'années. Fait que c'est un petit peu la même situation à Montréal, parce que tu sais qu'éventuellement, ça devrait être Suzuki. Mais tu ne donnes pas ça tout de suite cette année. C'est beaucoup. Il est encore trop jeune. Viens de signer un nouveau contrat. L'équipe va pas bien. Tu le mets dans une situation très, très, très inconfortable. Et puis, je suis d'accord avec ça. On n'est pas obligé d'avoir un capitaine. Pas si tu l'as pas, le vrai capitaine. Si tu penses que tu l'as le vrai, mais il n'est pas prêt, mais attends.
OK, Alexandre, est-ce qu'on est dû mettre un capitaine par intérim?
Non. Non, par contre, de façon informelle, ou même formelle à la limite, être Dominique Ducharme, moi vraiment, je prendrais Nick Suzuki à part, puis je le coacherais pour devenir le leader de cette équipe-là. T'sais, tu le fais par en arrière. T'sais, dans toute entreprise, tu as ce genre de canot-là qui existe où le boss va passer par en arrière, va aller voir son leader. Fais donc ci, fais donc ça. T'sais, il y a une grande expérience. Dominique Ducharme, il a gagné la Coupe Memorial, il a gagné le championnat mondial junior, il a coaché Weber. Il en a vu là, des leaders dans sa vie. T'sais. Puis moi, être Ducharme, là, ça va être une saison misérable. Ils vont perdre à l'os, ils vont vivre des expériences difficiles. T'apprends dans la défaite, t'sais. Puis je crois que une des jobs principales de Ducharme cette année, ça va être de prendre Suzuki puis de le faire apprendre dans la défaite puis lui dire, voici, t'en perds 4 de suite, là, voici comment un leader se comporte, Nick. T'sais. T'es sur la route, Nick, voici ce que tu dois faire avec les autres joueurs de l'équipe. Nick, comment tu vas être capable d'imposer ton autorité aux vétérans de l'équipe? S'ils mettent un C pour mettre un C, ça viendra pas naturellement comme ça. Il va y avoir quelque chose d'un peu artificiel de créer, de dire... on te le met un petit peu par défaut parce que t'es le meilleur joueur de l'équipe, puis t'es l'avenir de l'équipe. Il faut que ça se fasse de façon plus organique. Puis moi, je pense qu'un an, c'est suffisant comme période de temps. Mais en même temps, c'est suffisant, mais c'est nécessaire, en fait, comme période de temps pour que les gens dans le Canadien apprennent à Nick Suzuki ce que ça prend pour devenir le capitaine d'une équipe dans la Ligue nationale.
Parce que vous savez que le leadership, c'est pas quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose qui se gagne au fil du temps. Stéphane, tu veux l'acheter?
Mais... Un vrai leader, là, souvent, t'as pas moyen de montrer comment être un leader. T'es un leader naturel. C'est des choses que souvent, là, je suis pas sûr si ça s'en sent tant que ça. Et puis, t'essaies pas de faire un leader quelqu'un qui est pas leader dans lui. Puis, l'autre chose, jusqu'à preuve du contraire, ils en ont encore un capitaine.
Ouais. Non, je comprends. T'as raison, Stéphane, mais tu sais, on le sait.
Ça semble être une technicalité.
Non, mais on sait que c'est une question.
Là.
Exactement. Parce que Nashville va être pénalisé.
À un moment donné. Ouais, je sais, mais il reste qu'il est quand même encore le capitaine du Canadien. Et puis, à un moment donné, tu le règles, tu dis, il jouera plus, mais il n'est pas annoncé sa retraite, mais il ne jouera plus. Puis là, tu peux tourner la page, puis l'année prochaine, nommer un capitaine.
Il y a un précédent historique, d'ailleurs, parce que Yvan Cournoyer était capitaine du Canadien dans les années 70. Ouais. Il y a eu des gros malaises au dos. Il a raté, mais il n'a pas pris officiellement sa retraite. Serge était capitaine. C'est lui qui a brandi la Coupe Stanley. Ouais. Puis 2 ans plus tard, Cournoyer a officiellement pris sa retraite. Là, il y a eu un vote des joueurs. Mais ça faisait 2 ans que Savard était capitaine. Mais il y a quand même eu un vote pour confirmer de la part des joueurs sa nomination.
Bon, messieurs, on va s'arrêter quelques instants pour retour. Quelle est la limite de patience pour le Canadien? Quelle est la limite? C'est lorsqu'on est officiellement exclu, là, on dit bon, mais parfait, on est exclu. Puis il y a cette fameuse tradition qui parle du Thanksgiving américain. Si le Canadien est proche ou loin, si une formation est proche ou loin, sera exclu ou non? Moi, je veux savoir, de l'extérieur, on en fait un grand plat. Est-ce qu'à l'interne, on en parle de ces choses-là? On fait une courte pause. Merci d'être avec nous.
Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
On est de retour pour ce 10e épisode de la 3e saison de Sortie Zone. Nous avons Philippe Quentin de la presse qui est là, Alexandre Pratt de la presse également qui est là, Stéphane White qui représente le 98.5 Sport. Et avant d'aller à la pause, je vous demandais les gars, quelle est la limite de patience? Parce que là, le Canadien a une fiche de 3 victoires, 10 défaites. Là, on n'arrête pas de parler du Thanksgiving américain qui est le 4e jeudi de novembre qui donne le 25 novembre. D'ici ce temps-là, le Canadien a 8 matchs. Si t'es 4 matchs, si t'es dans le portrait des séries ou à 4 matchs des séries, t'as 93,7% des chances d'être dans les séries. C'est Jonathan Bernier du Journal Montréal qui faisait un tableau là-dessus ce matin. Moi, je veux savoir, dans un premier temps, Philippe, est-ce que ça, ça se tient? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on doit viser comme objectif de se rapprocher le plus possible? Est-ce qu'il y a une limite, à un moment donné, à dire c'est correct si on perd, mais on va être meilleur demain?
Je pense qu'on a déjà atteint cette limite-là, parce que déjà, là, si l'objectif demeure de participer aux séries, puis officiellement, c'est ça le discours des joueurs du Canadien, là, oui, on veut encore participer aux séries, cet objectif-là, il sera pas atteignable très bientôt, puis au Thanksgiving américain, effectivement, il va déjà être trop tard si la tendance actuelle se poursuit, puis il y a rien qui laisse présager que la tendance actuelle va cesser. Retour de Carey Price, tu sais, c'est pas pour demain non plus, puis bon, ça va être quand même difficile pour lui là après une aussi longue absence. Maintenant, la question, c'est ta question, Jérémy, super intéressante. Quelle est la limite de la patience? Mais quelle est la limite pourquoi? Pour congédier Bergevin, pour faire un grand ménage, pour congédier le coach?
Non, mais pour qu'il se passe quelque chose.
Pour qu'il se passe quelque chose.
Pour que quelqu'un se réveille en quelque part, pour que sur le désavantage numérique, on se mette à bloquer des lancers.
Tu parles à l'intérieur du vestiaire.
Pour qu'on ait des résultats positifs.
Si on n'en est pas là aujourd'hui, il y a un sacré problème.
Il y a un sacré problème.
Moi, je pense que la limite de la patience, je la prends plutôt au niveau de Jeff Molson. Lui, là, ça va être quand, sa patience? Moi, je pense que 1er janvier prochain, si c'est la saison est déjà à toute fin pratique terminée, il faut qu'il lance l'année 2022 sur des nouvelles bases.
OK, Stéphane, je veux savoir, est-ce que dans le vestiaire, cette histoire du Thanksgiving américain avec un pourcentage de chances de faire les séries, si tu es proche des séries à cette date-là du 25 novembre, est-ce que vous en parlez, ça?
Oui. On a tout le temps parlé. Et puis, on se disait tout le temps, bon, mais à Thanksgiving, il faudrait qu'on soit dans le playoff picture, et, dans la fenêtre pour faire les playoffs. Et puis, ça, on en parlait à chaque année. C'est important, rendu là. Puis, c'est pour rien qu'une affaire là, de stats ou de. C'est une affaire qu'on parlait beaucoup de Thanksgiving américain, être dans une position pour faire les playoffs. Ça, c'est important pour nous autres. Donc, mais si la tendance se maintient, comme dirait Philippe, premièrement, si la tendance se maintenait hier, le Québec aurait une mairesse.
Comme quoi, il faut attendre toujours au dernier résultat. Hein?
Comme quoi qu'il faut attendre un petit peu encore une couple de semaines pour le Canadien. Et puis on parle de patience. Écoute, pour moi, la patience, la limite, c'est dans 2 semaines, c'est à Thanksgiving. Si on s'en va, si on s'en va nulle part au niveau des playoffs, là, c'est le temps de faire des moves. Et puis, des moves pour l'année prochaine. Et puis, c'est rendu là, mais ça va être avec Marc ou pas. Si eux autres, c'est sans Marc, faut qu'ils fassent un changement. Si c'est avec Marc, mais dites-les, Marc, il va revenir, puis Marc va avoir les mains déliées pour faire les moves à faire pour le futur.
Alexandre?
Je pense que la patience est déjà passée, parce que s'ils avaient encore de la patience, ça voudrait dire qu'ils ont encore dans leur tête des chances de participer aux séries, et je pense qu'il y aurait déjà des actions qui auraient été posées. T'sais, je sens que présentement, tout simplement, la serviette est lancée. Écoutez, mathématiquement, là, selon le site Sports Club Stats, qui est un site de statistiques, le Canadien a 1,6 5% de chances de participer aux séries présentement. Là. C'est à peu près les chances du Parti Rhinocéros de gagner. Je veux dire, un comté quelque part là, au Québec. Là. Donc, pour moi, cette fenêtre-là, elle est déjà passée et je vois pas pourquoi présentement, il y aura un changement. Par exemple, parlons d'entraîneur. Ça serait un petit peu illogique.
Je pense pas que ça va être le coach.
Non, mais tu vas rentrer quelqu'un. Ben moi, je suis contre, là, en partant. Mais là, tu vas rentrer quelqu'un dans des conditions épouvantables. Je veux dire, c'est sûr là, que les Canadiens vont perdre plus qu'ils vont gagner d'ici la fin de l'année. Il y aurait Scotty Bowman qui en perdrait plus qu'en gagnerait plus. Là, avec le talent qu'il y a dans l'équipe présentement, ça serait mettre la prochaine personne dans une position épouvantable. Un autre intérim qui prendrait fin au mois d'avril parce que la personne va finir l'année avec 15 victoires, 60 défaites.
Non, ça, c'est sûr que ça. Moi, là, savez-vous qu'est-ce qui me fait peur? Puis ça, j'ai en arrière de la tête, mais j'ai peur qu'il y ait un petit peu de pensée magique chez les Canadiens, chez Marc Bergevin présentement. La pensée magique, c'est Carey Price. J'ai peur qu'ils se disent, OK, quand Carey va revenir, je dis pas qu'il va arrêter toutes les rondelles, mais son ascendant dans le vestiaire va changer la dynamique complètement. Ça va faire en sorte que tout le monde va prendre sa place, puis on va redevenir un club mean. Excusez-moi, là, mais à un moment donné, il faut arrêter. Tu sais, Carey Price, c'est un gars qui a des gros...
Minimum 2 semaines, Jérémy.
Minimum 2 semaines, tu dis?
Minimum... Puis dans 2 semaines, il va être trop tard.
Je suis d'accord. Écoute, en 2017-18, quand le Canadien avait son anus horribilis, là, tu sais, Marc Bergevin m'avait confié après la saison, il dit, écoute, après 15 matchs, là, je le savais qu'on s'en allait nulle part, on avait frappé un mur. Il dit, le seul problème, c'est que si tôt dans la saison, puis on est exactement là, présentement, là, le Canadien est à quoi? Il est à 13 matchs joués. Mm-hmm. Tu sais, là, tu te retournes d'abord. Il n'y a aucune équipe qui, présentement, va vouloir aider le Canadien dans la Ligue nationale. Personne ne va échanger son premier centre ou son deuxième centre au Canadien. Il dit, là, tu as les mains liées. Tu le sais, tu es devant rien pour le reste de l'année. Ben, il dit, tout ce qui te reste à faire, c'est d'attendre, genre au mois de février, quand les équipes vont vouloir transiger. Il dit, le reste du temps, tu vois juste ça s'étioler.
OK,
là,
moi, OK, parfait. Je trouve ça super le fun, là. Je peux comprendre d'un point de vue hockey. Maintenant, il y a un point de vue business à tout ça. Il y a un point de vue qu'il y a des partisans qui, eux, ont été privés de hockey, qui ont subi assurément des modifications économiques au fil des derniers mois, des dernières années, font en sorte maintenant que ils choisissent d'y aller ou non. Fait que ça veut dire que si le Centre Bell devient troué, parchemé de spectateurs une fois de temps en temps, ça se peut-tu que Jeff Molson dise « c'est pas vrai qu'on va attendre un an au complet, là. C'est pas vrai qu'on va passer ça comme ça. » Qu'est-ce que t'en penses, Philippe?
Ben, tu sais, dans un monde idéal, peut-être qu'il réagirait plus vite, mais je pense pas qu'il va passer comme ça. Je veux revenir sur 2 points là, pour prendre ce dossier-là. D'abord, ce que tu dis, Jérémy, à l'effet qu'il s'accroche peut-être à la bouée de sauvetage Carey Price, j'ai l'impression qu'il y a une part de vrai là-dedans. Même si Stéphane, tu as raison de dire que dans 2 semaines, il va être trop tard, mais s'ils y croient encore, c'est la seule façon qu'ils peuvent croire à ça. C'est que le retour de Price influence calmement dans le vestiaire, rend l'adversaire généreux, c'est le meilleur joueur. Ça, tu peux pas les empêcher peut-être de rêver à ça. Donc, tu as raison sur le fond, mais Stéphane ajoute avec raison, oui, mais il reviendra pas avant 2 semaines, puis peut-être 3, puis il va déjà être trop tard. Donc, tu sais, ils sont pognés un peu d'une façon ou de l'autre. Mais l'autre point que je trouve fondamental, c'est ce que Stéphane, tu disais tantôt, la grosse décision à prendre. Parce qu'on s'en va probablement vers une vente de liquidation à date limite de transaction et tout. Donc, la première décision à prendre, c'est qui va l'amener, la vente de la date limite des transactions. Mm-hmm. Ça, c'est fondamental. Est-ce que ça va être Marc Bergevin ou ça va être quelqu'un d'autre? Puis moi, je pense que si Jeff Molson ne voit pas d'avenir à Marc Bergevin au-delà de la saison actuelle, il peut pas lui laisser faire ces gestes-là. Il faut qu'il confie ça déjà à une nouvelle personne. On va dire, oui, mais les nouvelles personnes sont déjà embauchées ailleurs et tout. Ça peut poser un problème, à moins que tu décides d'aller à l'extérieur de la Ligue nationale de hockey pour trouver ton directeur général, ton nouveau directeur général. Puis là, ben, on ramène des noms. On ramène un nom comme celui de Patrick Roy, par exemple.
Patrick Roy qui pourrait laisser les Remparts de Québec venir commencer à faire son boulot là-dedans. Mais savez-vous quoi, messieurs? On a beau parler dans 2 semaines, puis le Thanksgiving. Moi, j'ai sorti les matchs que le Canadien a joué parce qu'on peut vivre d'espoir, on peut regarder ça puis dire oui, Carey sera dans l'entourage à la limite. Tu sais, ça amènera une dynamique différente. Mm-hmm. T'affrontes les Kings, Calgary qui sont 7 victoires, 1 défaite, 3 défaites en bris d'égalité. T'as un 2-2 samedi et dimanche à Détroit. Et d'ailleurs, Détroit a battu les Golden Knights de Vegas hier. T'as un...
À Détroit, Bertuzzi va jouer.
En plus, t'as un 2-2 Détroit et Boston. Après ça, t'as les Rangers, Pittsburgh, Nashville, Washington. Fait que tu sais, la pensée magique de dire on va en gagner 6-8 puis on va se replacer pour les séries. Ça se peut qu'on soit loin, Stéphane.
Non, je suis d'accord. C'est pour ça que je suis d'accord, sauf que statistiquement, ou les visites, c'est possible encore. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui croit que le Canadien va avoir un bon stretch dans ces deux semaines-là. Mais, on sait jamais, ça peut arriver.
le gars, il essaye, hein?
Ouais. Ben, ils sont rendus, le Canadien, à espérer que les autres équipes les prennent à la légère. Ça peut, parce que là, le Canadien arrive dans une ville, là, regarde l'autre équipe. Puis là, tu es surpris. Ouais. On en est là, là. Ouais. Faut pas se tromper, on en est là. Le Canadien arrive en ville, c'est une équipe faible qui arrive en ville.
Il y a une coupe d'année.
Non, mais sérieux, les six équipes qui battent, je veux dire, c'est les Red Wings qui viennent sans leurs meilleurs joueurs. La dernière game, il n'y avait pas leurs deux meilleurs joueurs, puis un line-up de la Ligue américaine. T'sais.
OK. Là, messieurs, savez-vous, si ici on se pose des questions à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec l'organisation, on a trouvé des solutions du côté de Chicago, on a fait le ménage. Jeremy Colleton est parti, on a congédié les assistants-entraîneurs, outre ton frère, Stéphane. Jimmy, lui, est resté là avec l'organisation. Et je vais commencer avec toi, Stéphane.
Oui, avec Mark Crawford.
Exact. T'as connu ça, quand Claude Julien a quitté ou quand Claude Julien est arrivé, tu as connu ce processus-là. Comment ça se passe à l'interne quand il y a un grand coup de balai qui est passé?
Bon, ce coup, tout le monde est assommé. Même si tu t'en attends, c'est tu veux pas le voir arriver. Et puis, hier, j'ai parlé avec mon frère, puis ça m'a rappelé des plus ou moins bons souvenirs. Et puis, c'est dur parce que là, tu as une personne de l'extérieur qui arrive, un nouveau coach. Et puis, il va-tu t'aimer, t'aimes-tu pas? On parle de joueurs ou même les autres assistants qui restent là. Tout est un petit peu... là, tu changes toutes tes habitudes. Faut tout change de A à Z, de plein de choses. Donc, c'est pas facile à vivre de l'intérieur. Même les joueurs s'attendent, OK, il va-tu m'aimer? Il va-tu me faire jouer? J'étais bien avec tel. Ou il y a certains joueurs qui sont contents. Il y a des joueurs... T'as tout le temps les gars qui jouent pas, eux autres qui jouent pas sont contents. Puis ceux qui jouent beaucoup, mais ils sont dans une période où il va-tu m'aimer ou pas. Donc, c'est pas facile. Je l'ai vécu souvent. Je l'ai vécu quand Trent Yanni s'était fait congédier. Après ça, je l'ai vécu quand Denis Savard s'était fait congédier. Je l'ai vécu avec Michel Therrien, avec qui j'avais des bons liens. Puis après ça, avec Claude Julien. Puis c'est jamais facile. Tu te demandes premièrement toi-même. Tu vas-tu survivre à ça? Puis... Non, c'est pas le fun. C'est quelque chose qui est pas le fun de l'intérieur, je peux te le dire.
Mais l'objectif, c'est que ça soit pas le fun parce qu'on veut brasser quelque chose. D'ailleurs, les Blackhawks ont gagné hier 2-1 en prolongation face aux Prédateurs de Nashville. C'est ce que tu veux. Tu veux shaker le pommier parce que ça va pas bien quand t'es rendu à changer de coach, Philippe. Et Stéphane, vas-y.
Je suis d'accord, mais c'est sûr, c'est pour ça. On comprend toute la game, on comprend tout que ça fait partie de notre métier qu'à un moment donné. On va sauter. Et puis, on dit tout le temps à l'intérieur, de l'intérieur, on appelle ça passer dans le tordeur. Un jour, on passe dans le tordeur. Et puis, Chicago. Ben, je trouve que là, Chicago, c'est une situation très, très, très difficile. Carl Davidson, c'est pas lui qui va être le GM, le directeur général à long terme. Lui, il est intérim. C'est un gars, quand j'étais là, qui était un intern qu'on appelle là. Et puis,
un stagiaire.
Un stagiaire, exactement. C'est un stagiaire qui arrivait de l'université ou qui était bon dans le niveau des chiffres. Et puis tout d'un coup, là, j'apprends qu'il est rendu GM. Là, c'est comme wow. donc là, il ne peut pas nommer de coach. Il ne peut pas nommer de coach. Il est intérim. Le GM est intérim. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages à faire là. Fait qu'ils peuvent pas faire rien tant qu'ils n'ont pas nommé un directeur général.
Jusqu'à un certain point, j'ai l'impression que comme organisation, puis c'est sûr, le Chicago, on le sait, là, à cause de toute l'histoire de Kyle Beach. Là,
c'était pas facile pour Jeremy Colleton en passant. C'était pas une
situation très particulière. Mais au-delà de ça, je pense que l'organisation des Blackhawks vient d'envoyer un message aux fans en disant, écoutez, c'est inacceptable le rendement de l'équipe depuis plusieurs années. On va reprendre ça. Maintenant, cette année, on est en pleine saison, donc on va y aller avec des gens par intérim. Puis j'ai l'impression que les fans vont comprendre. Donc, je suis certain que les attentes envers l'équipe des fans vont baisser. Ça répond aux questions. Ben non, ils seront plus là. La gang qui a dirigé pendant des années, elle sera plus là. Il va y avoir une nouvelle gang. Puis vu qu'on est au mois d'octobre, novembre, ben on comprend qu'il va falloir attendre la saison, l'entre-saison pour choisir du nouveau monde. Donc, il y a un geste là, de la direction de l'équipe Il y a un message qui vient d'être donné mm-hmm. aux joueurs, mais il y a un message qui vient d'être donné oui. aux fans aussi. Un message très clair. Puis tu sais, tout à coup, il va falloir que la direction du Canadien aussi donne un message, que ce soit un message de renforcement. Nouveau contrat pour Marc Bergevin, 5 ans, c'est notre homme, on continue, il a fait des bons trucs, il a fait des bonnes transactions, mais on va remplacer, disons, Timmins. Bon, tu sais, mais il faut que tu fasses quelque chose.
T'imagines si on sortait aujourd'hui publiquement que Marc Bergevin a une prolongation de contrat avec un dossier de 3 victoires, 10 défaites, ça devient la folie furieuse, là.
Écoute, c'est encore drôle.
C'est pas.
Je pense que si tu annonces que Bergevin reste puis que Timmins s'en va.
Ah, mais là, t'ajoutes Timmins.
Ouais, que Timmins s'en va.
Ça va prendre un sacrifice. Reste,
Ça en prend un. Puis Timmins ne peut pas rester. Même si Bergevin s'en va, Timmins ne peut pas rester. Parce que Timmins est trop contesté.
OK, hey, Stéphane, je vais te poser une question. Trevor Timmins, toi, t'en penses quoi?
Je ne me ferai pas d'amis beaucoup au Québec, mais je pense que c'est un bon homme de hockey. J'ai jasé souvent avec Timmins à l'intérieur. Il est très respecté, je peux te dire ça. Et puis que ce soit avec Scott Mellenby ou Martin Lapointe ou Marc, bien sûr. Il a tout le temps été très respecté dans son opinion. Et puis je sais que je connais beaucoup les dépisteurs, spécialement nos deux dépisteurs au Québec, Serge Boisvert et Donald Audette. Et puis eux aussi adorent Trevor Timmins. C'est dur pour moi d'aller en contre-courant, sauf que je comprends un petit peu toutes les critiques qu'il y a. Mais comme gars de hockey, moi, je l'ai trouvé très, très, très bon. J'ai adoré travailler avec et jaser avec lui.
Alexandre, est-ce que tu partages l'amour de Trevor Timmins de Stéphane?
Ben, moi, j'ai pas travaillé avec Trevor Timmins. D'un œil purement objectif de l'extérieur. Tu sais, j'ai fait une compilation vendredi.
Ça, c'est à chier comme question.
Non, c'est ça. C'est un peu différent. C'est-à-dire, t'as une relation personnelle avec lui. Moi, j'en ai pas de relation personnelle avec lui. Je regarde ça froidement. T'sais, j'ai fait une compilation pour ma chronique de samedi. Là. Okay, on va prendre tous les joueurs repêchés par le Canadien dans les 10 dernières années. Tous. Le premier jusqu'à la 7e ronde. Combien ils ont marqué de buts cette année? Peu importe où est-ce qu'ils jouent. Tu joues à Tampa, tu joues à Ottawa, on va tout mettre ça dans le même bucket. Okay? Depuis le début de la saison, à date de vendredi, les joueurs du Canadien avaient marqué 6 buts. Les joueurs repêchés par le Canadien avaient marqué 6 buts. C'est de loin la pire performance de toute la Ligue nationale. Écoute, par comparaison, prends tous les joueurs repêchés par les Hurricanes de Caroline depuis 10 ans, peu importe où est-ce qu'ils jouent présentement, ils ont 43 buts. Les Sharks en ont 28. La moyenne de la Ligue, c'est 18. Je veux dire, le Canadien, les joueurs...
Est-ce qu'on avait comme mission de repêcher des défenseurs? Peut-être qu'un défenseur va marquer.
Attends, le Canadien a repêché deux fois des attaquants dans le top 3. Deux fois, les deux gars ensemble cette année ont 2 buts. En fait, il y en a un qui ne joue même pas dans la Ligue nationale. Galchenyuk joue même pas dans la ligue présentement. Puis Kotkaniemi a 2 buts, c'est correct là, pour son talent. Moi, je pense que c'est un joueur qui livre ce qu'il doit. Mais le Canadien a quand même eu 2 chances incroyables, je veux dire, de repêcher dans le top 3. Il y a des équipes comme San Jose et les Ducks. Ils n'ont pas repêché, eux autres, 2 fois dans le top 3. Ils n'ont même pas repêché dans le top 3 pendant ces 10 années-là, puis ils ont 28 puis 27 buts. Donc, il y en a eu des attaquants. Il y a eu McCarron qui est un attaquant. Sherbach, c'est un attaquant. Puis, tu sais, même, il y a des choix de 2e, 3e, 4e, 5e round ailleurs qui ont percé puis qui en marquent des buts aujourd'hui. Là. Le Canadien présent. Écoutez, c'est pas compliqué, là. En date de vendredi, Kotkaniemi avait 2 buts, Sergachev avait 2 buts, puis il y avait 2 gars, 1 but. Le reste, c'était 0 partout. Pendant 10 ans, 0 partout. Pense-y, franchement. Fait que c'est sûr que d'un point de vue objectif, tu regardes ça, c'est difficile de dire que Trevor Timmins a fait une bonne job dans les 10 dernières années.
Stéphane, est-ce que tu l'aimes un peu moins, Trevor Timmins, là?
Oh my God.
Non, mais je vais défendre. je vais défendre Stéphane là-dessus. Tu sais, quand tu as une relation personnelle avec quelqu'un, oui. C'est plus tough, là. Non, je comprends ça, là, tiens.
Oui, puis, mais tu sais, des fois, on dit, gars, c'est quand même lui qui a repêché Sergachev, c'est lui qui a repêché McDonough. C'est pas sa faute si ces gars-là sont plus ici.
Non.
Ben, écoute, alors, je disais tantôt, je me ferais pas d'amis ici en appuyant Trevor Timmins. Parce que, comme je te dis, de l'intérieur, il est très respecté. De tous les gars de hockey dans l'organisation, il est respecté. Tu expliques pourquoi il est encore là, à mon avis.
Bon. Ben écoute, on va s'arrêter quelques instants sur cette déclaration d'amour et au retour, on va aller avec les questions du public. Merci d'être là.
Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction.
Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente d'étiquettes rouges présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
On est de retour à ce 10e épisode de la 3e saison de Sortie de zone avec Philippe Quentin, Alexandre Pratt et Stéphane White. Messieurs, c'est le temps des questions du public. Je débute puis on fait ça en rafale. Parfait. Je commence avec toi, Philippe. Alexandre Delisle nous dit, si la saison... Et là, je veux juste dire aux gens qui envoient des questions, je les, tu sais, c'est une synthèse la question. Je ne prends pas du mot pour mot, je fais une synthèse la question. Donc, Alexandre Delisle nous dit, si la saison persiste dans cette direction, comment regarder les matchs du Canadien pour avoir une année qui sera moins horrible? Donc, quels sont les points à focusser et quels sont les points à ignorer? Si tu veux pas commencer à te frapper la tête d'un mur, sur quoi tu dois regarder? Qu'est-ce que tu dois focusser pendant les matchs, Philippe?
Première chose, Nick Suzuki. Tu regardes jouer Nick Suzuki, il joue beaucoup. Il joue en avantage numérique, il joue à 5 contre 5, il joue de longues minutes, il est le fun à voir jouer, c'est un excellent joueur de hockey. Il apporte de l'espoir. Tu sais qu'il va être là longtemps. Il n'y aura pas de rough hostile pour ses services parce qu'il a signé un contrat à long terme. Ça, c'est la première chose. Je vais vous donner un exemple. Les Nordiques, dans leurs dernières années à Québec, là, quand ça allait très, très mal, tu sais, les gens, au moins, pouvaient se retourner vers un jeune Joe Sakic. Ils voyaient le jeune Joe Sakic. Malheureusement, il a gagné la Coupe Stanley au Colorado un an après le départ. Mais tu voyais déjà une partie de l'avenir de ton équipe puis c'était inspirant. Alors, première chose, tu regardes Suzuki. Deuxièmement, tu te croises les doigts puis t'espères que Caulfield débloque un petit peu à Laval puis qu'il s'en vienne rejoindre Suzuki et les autres à Montréal. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que tu regardes les jeunes. Tu regardes les jeunes, tu essaies de trouver du fun à les voir jouer. Puis tu regardes les plus vieux puis tu dis, moi juste que ça serait le fun qu'il y en ait une coupe, qu'il y ait une bonne séquence de buts, un Toffoli, juste à la fin du mois de janvier, là, puis que tout à coup, il attire l'attention d'une autre équipe. On pourrait aller chercher quelque chose, un gars plus jeune pour bâtir, puis lui, il irait marquer des buts pour une autre équipe qui est en lice pour les finales de la Coupe
Stanley. Stéphane, on doit regarder ça de quel niveau si on veut trouver ça positif, la saison du Canadien?
Premièrement, si t'aimes le hockey, tu regardes aussi l'équipe adverse, tu regardes la game, t'apprécies rien que l'effort. Je veux dire, souvent au Québec, on a le fan du Canadien ou on a le fan de hockey. Et puis... mais si t'es le fan du Canadien, c'est certain que tu veux voir un effort. Tu veux voir, je suis d'accord avec Philippe, tu veux regarder jouer les jeunes, ce qui est très important. Mais surtout, tu veux voir un bon show. Tu veux que les joueurs donnent un effort. Et puis, au moment donné, si le fans réalise que, gars, on n'a tout simplement pas le talent pour rivaliser, mais au moins, on travaille fort, ça va passer pas mal mieux.
Alexandre?
Je suis d'accord avec Stéphane. En effet, là, c'est le spectacle, je pense, qui va être important à partir d'ici, d'avoir des matchs serrés. Là, ne serait-ce que pour les gens qui payent des billets et qui vont au Centre Bell. T'en parlais tantôt, Jérémy. Il y a une certaine profession du foie, là, présentement, de mettre 100 piastres puis d'aller au Centre Bell. C'est pas la sortie la plus évidente en ville.
100 piastres, je pense, Théo.
Exactement. Ouais, on est en même temps, Philippe. 100 piastres, c'est pas
prix,
beaucoup.
C'est le prix que chez nous, on paye quand on va au Canadien.
100 piastres, t'es dans le garage. T'es dans le garage où tu parles ton char.
Je suis surpris, mais l'autre fois, j'ai quand même trouvé 2 billets pour 11 piastres chaque pour aller au Canadien.
Sérieux?
Oui, absolument. Ah, oui, quand même. Absolument. Puis en fait, mes gars sont allés assez souvent depuis le début de l'année en bas de 25 piastres la chambre.
Bonne chose. Donc. Je vais t'appeler les prochaines fois.
Mais sur site de revente, évidemment. Mais moi, je regarde les joueurs qui sont sous contrat à long terme. Donc, Suzuki, évidemment. Je regarde aussi Jonathan Drouin et Josh Anderson. Josh Anderson, il a un immense contrat. Souvenez-vous, quand il a signé son contrat, c'était le plus gros contrat de l'histoire pour un attaquant du Canadien. Je souhaite une explosion. Être un fan du Canadien, dans son cas, à un moment donné, il va falloir que vraiment ça débloque de façon importante. Il ne peut pas être un joueur de 8 buts par année. Là. Ça ne fonctionnera pas dans les plans longtemps. L'autre, c'est Jonathan Drouin. Moi, je dois dire que j'aime ce que je vois de Jonathan Drouin. Là, je sais que c'est pas tout le monde qui est un fan. Moi, je suis plutôt partisan de son dynamisme en attaque. Je comprends qu'il y a des lacunes défensives, mais toutes les équipes ont des joueurs qui ont des lacunes défensives. T'sais. Mais j'aime ce que je vois d'habitude de Jonathan Drouin comme passeur sur l'avantage numérique. Et je crois vraiment qu'il peut devenir un spécialiste là, très pointu dans la Ligue nationale en avantage numérique. Mais j'aime ce que je vois de sa part depuis le début de la saison. Et j'espère que ça va aller en augmentant parce que je continue de penser que c'est un joueur. En fait, je trouve qu'au niveau du talent, c'est avec Suzuki, le meilleur attaquant du Canada. Canadien. Puis je pense qu'il y a encore de la place pour son développement. Il est quand même jeune, on l'oublie. Là. Il n'y a pas 30 ans, le Jonathan. Il y a encore de la place pour se développer.
OK, point à focusser pour moi. C'est fort simple. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder Dominique Ducharme. Comment Ducharme va sortir de cette année-là de misère? Comment il va trouver le moyen de rallier les troupes? Comment il va trouver le moyen, parce qu'il faut que tu améliores ton équipe quand même. Il faut que tu la rendes meilleure sur la patinoire. Pour moi, ça va être un défi intéressant à regarder.
Mais pendant le match, là, tu ne le regarderas pas changer ses lignes. Pendant le match, as-tu quelque chose? Qu'est-ce qui va t'intéresser pendant le match?
Moi, pendant le match, je vais regarder les défenseurs du Canadien quand Carey Price va arriver. Je vais voir la différence, comment ces gars-là peuvent paraître parfois immobiles quand un gardien de but qui, puis là, Stéphane va peut-être le dire, contrôle moins bien la rondelle. Quand t'as un Price, vous allez voir, ça va sortir pas mal plus vite de la zone. À mon avis, là, Stéphane, ça a-tu du sens ce que je dis?
Oui, ça a bien du sens, surtout que quand que Carey est là, comme défenseur, tu joues un petit peu plus lousse dans le sens que tu dis, bon, ben, si je fais une erreur, j'ai un des meilleurs gardiens de but au monde en arrière qui peut m'aider. Et puis ça change beaucoup. Mais puis l'autre chose, c'est Carey. L'année passée, ils ont eu le meilleur désavantage numérique de loin dans les playoffs. Puis la raison, c'était Carey Price.
Ah, ça, c'est sûr.
Ça va aider beaucoup.
C'est sûr. Point ignoré pour moi, regardez pas le pointage. Comme ça, vous allez pas vous tromper, puis ça va être des soirées plus agréables. On va s'arrêter là-dessus. Gros merci à Philippe Quentin, merci d'avoir été
là. Salut Jérémy, salut tout le monde.
Merci Alexandre Pratt, merci beaucoup.
Plaisir.
Merci Stéphane, toujours un plaisir.
Merci les gars, bonne semaine.
Donc, on s'arrête là-dessus et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour le 11e épisode de cette balado Sortie de zone.
Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.